Il racontait à Gianni comment s'était passée leur conversation quand son téléphone sonna. C'était Yunel.
Est-ce qu'on pourrait se parler demain, Ralph? Il y avait un truc bizarre dans cette grange où le gamin a découvert les vêtements que Maitland portait à la gare. Plusieurs choses, même.
Dites-moi tout maintenant.
Non, je rentre chez moi. Je suis vanné. Et j'ai besoin de réfléchir à tout ça.
Ok. Demain, alors. Où?
Dans un endroit tranquille, à l'écart. Je n'ai pas envie qu'on me voie avec vous. Vous êtes en congé administratif, et moi, je ne suis plus sur cette affaire, normalement. D'ailleurs, il n'y a plus d'affaire, maintenant que Maitland est mort.
Que vont devenir ces vêtements?
Ils vont être envoyés à Cap City pour analyse. Ensuite, ils seront remis au bureau du shérif de Flint County.
Vous plaisantez? Ils devraient être conservés avec tous les indices concernant Maitland. De surcroît, Dick Doolin n'est même pas capable de se moucher sans avoir le mode d'emploi.
Certes, mais Canning Township étant un comté, et non pas une ville, il dépend de la juridiction du shérif. Il paraît que le chef Geller a envoyé un inspecteur sur place, mais c'est par pure courtoisie.
Hoskins.
Oui, voilà. Il n'est pas encore là, et le temps qu'il arrive, il n'y aura plus personne. Il s'est peut-être perdu.
Ou bien il s'est arrêté en chemin pour s'enfiler quelques verres, songea Ralph.
Ses vêtements vont se retrouver dans un carton, quelque part. Et ils y seront encore à l'aube du 22e siècle,
ajouta Yunel.
Tout le monde s'en fout. Aux yeux de l'opinion publique, Maitland a tué ce gamin. Maitland est mort, passons à autre chose.
Je ne suis pas prêt à tirer un trait, répondit Ralph. Il sourit en voyant Gianni, assis sur le canapé, serrer les poings, pouce dressé. Et vous?
Est-ce que je serai en train de vous parler? Alors, où peut-on se retrouver demain?
Il y a un petit café près de la gare de Dubrow. Le O'Malley's Irish Spoon. Vous trouverez?
Je pense.
10 heures?
Parfait. Si jamais j'ai un empêchement, je vous préviendrai.
Vous avez toutes les dépositions des témoins, n'est-ce pas?
Sur ma tablette.
Pensez à les apporter. Mes dossiers sont au poste et je n'ai pas le droit d'y mettre les pieds. J'ai un tas de choses à vous dire.
Moi aussi,
dit Yunel.
Il se peut qu'on résolve cette affaire, Alf. Mais je ne sais pas si on aimera ce qu'on risque de découvrir. On s'engage dans une forêt très profonde.
En fait, songea Ralph en mettant fin à la communication, cet homme long et cette saloperie grouille d'asticot. 21. Jack Hoskins s'arrêta au Gentleman Please en se rendant au domicile d'Elfman. Il commanda une vodka tonique qu'il estimait bien méritée, ayant dû abréger ses vacances. Il la but d'un trait, puis en commanda une autre, qu'il sirota. Il y avait 2 stripteaseuses sur scène, encore tout habillées, ce qui voulait dire qu'elles portaient un soutien-gorge et une culotte. Mais elles se frottaient l'une contre l'autre d'une manière lascive, qui provoqua chez Jack une demi-érection. Quand il sortit son portefeuille pour payer, le barman l'arrêta d'un geste. « C'est offert par la maison. »« Merci. » Jack laissa un pourboire sur le bar et ressortit. Il se sentait un peu mieux. De retour dans sa voiture, il prit un rouleau de pastilles de menthe dans la boîte à gants et en croqua 2. Les gens affirment que la vodka est inodore, mais c'est des conneries. La route de campagne avait été condamnée par des rubalises jaunes. Hoskins descendit de voiture, ôta un des piquets auxquels étaient attachées les bandes de plastique jaune et le remit en place après être passé.
Quelle galère! Pensa-t-il.
Et la galère s'accentua quand il arriva devant des bâtiments en bois, une grange et 3 cabanes, pour découvrir qu'il n'y avait personne. Il tenta d'appeler le poste pour partager sa frustration avec quelqu'un, ne serait-ce que Sandy McGill, qu'il considérait comme une connasse coincée. Mais sa radio n'émit que des grésillements, et bien entendu, son portable ne captait aucun réseau à Plougville. Il prit sa lampe torche et descendit de voiture, surtout pour se dégourdir les jambes. Il n'y avait rien à glaner ici. On l'avait envoyé à la chasse au dahu et il était le dindon de la farce. Un vent violent soufflait, un courant brûlant qui serait le meilleur ami d'un feu de broussaille. Un bosquet de peupliers se dressait autour d'une vieille pompe à eau. Les feuilles dansaient et bruissaient, leurs ombres filaient sur le sol au clair de lune. D'autres rubalises étaient tendues devant l'entrée de la grange où l'on avait découvert les vêtements, déposé dans un sac et expédié à Cap City à l'heure qu'il est.
N'empêche, c'était flippant de penser que Maitland était venu ici, après avoir tué ce môme. D'une certaine façon, pensa Jack, je marche sur ses traces. D'abord le ponton où il a enlevé ses vêtements ensanglantés, puis le Gentleman Please. Après le bar de striptease, il s'est rendu à Dubrow, mais il a dû faire demi-tour pour venir ici.
La porte ouverte de la grange ressemblait à une bouche béante. Hoskins répugnait à s'en approcher. Ici, au milieu de nulle part, seul.
Certes, Maitland était mort et les fantômes n'existaient pas. Mais quand même, il n'avait pas envie de s'en approcher. Il dut s'obliger à avancer, lentement, pas à pas, jusqu'à ce qu'il puisse braquer le faisceau de sa lampe à l'intérieur. Quelqu'un se tenait au fond.
Jack laissa échapper un petit cri et voulut se saisir de son arme, mais il s'aperçut qu'il ne la portait pas à la ceinture. Le Glock était resté dans le petit coffre-fort gardôle installé dans son pick-up. Sa lampe lui échappa des mains. Il se baissa pour la ramasser et sentit aussitôt la vodka lui remonter à l'intérieur du crâne, de quoi provoquer une sensation de vertige. De nouveau, il pointa sa lampe sur l'intérieur de la grange et éclata de rire. Ce n'était pas un homme qu'il avait vu, mais un vieil harnachement à moitié fendu en deux.
Il est temps de foutre le camp d'ici. Un arrêt au Gentleman Please, peut-être pour m'en jeter un dernier, et puis retour au bercail, et direct au plus...
Il y avait quelqu'un derrière lui. Et cette fois, ce n'était pas une illusion. Il apercevait l'ombre, longue et fine. Et était-ce une respiration qu'il entendait?
D'une seconde à l'autre, il va me sauter dessus. Il faut que je me jette au sol.
Mais il n'y arrivait pas. Il était pétrifié. Pourquoi n'avait-il pas fait demi-tour en constatant que tout le monde était reparti? Pourquoi n'avait-il pas sorti son arme du coffre? Et d'abord, pourquoi était-il descendu de son pick-up? Jack comprit soudain qu'il allait mourir à Canning Township, au bout d'un chemin de terre. C'est alors qu'il sentit une main se poser sur sa nuque. Une main aussi chaude qu'une bouillotte. Il essaya de hurler, sans y parvenir. Sa poitrine était cadenassée, comme le Glock dans le coffre. Une seconde main allait se joindre à la première pour l'étrangler. Mais le contact de la main disparut. Ne restèrent que les doigts qui allaient et venaient, très délicatement, qui jouaient sur sa peau et laissaient des traces de chaleur. Jack n'aurait su dire combien de temps il demeura là, incapable de bouger. 20 secondes? 2 minutes? Le vent ébouriffait ses cheveux et caressait son cou, comme ses doigts. Les ombres des peupliers traversaient l'étendue de terre et d'herbe telles des poissons qui s'enfuient. L'individu, ou la chose, se tenait derrière lui. Elle le touchait, le caressait. Et soudain, doigts et ombres se volatilisèrent. Jack fit volte-face et, cette fois, le cri jaillit de sa gorge, puissant et long. Quand le pan de sa veste gonflé par le vent produisit un claquement et qu'il se retrouva face au vide. Juste quelques constructions abandonnées sur une parcelle de terre. Il n'y avait personne. Il n'y avait jamais eu personne. Personne dans la grange, juste une attelle brisée. Et pas de doigts sur sa nuque en sueur, uniquement le vent. Il regagna son pick-up à grande enjambée en regardant par-dessus son épaule. Une fois, deux fois, trois fois. Il monta à bord, en tressaillant quand une ombre mue par le vent traversa à toute vitesse le rétroviseur. Il mit le contact. Il redescendit le chemin à 80 km/h, passant devant le vieux cimetière et le ranch abandonné, sans se soucier des rubalises qu'il arracha au passage. Il bifurqua sur la 79 dans un crissement de pneus et reprit la direction de Flint City. Quand il franchit les limites de la ville quelques minutes plus tard, il avait eu le temps de se convaincre qu'il ne s'était rien passé là-bas, devant cette grange. Et les palpitations dans son cou ne voulaient rien dire non plus. Absolument rien.